Apple omniprésent au CES 2021, du AirPlay 2, du CarPlay, du MagSafe et du HomeKit partout, et les autres fabricants de processeurs, eux, n'ont eu cette semaine que le M1 à la bouche. Comment désinstaller Flash sur votre Mac ? Un tuto audio devenu indispensable parce que depuis deux jours, Flash est dans le noir pour de bon. Vous êtes en moto ou à vélo, être vu c'est la condition de votre sécurité. François a testé le feu stop visible par tous de chez Cosmo Connected. Tester les AirTags avant même leur annonce, ça vous dirait ? Eh bien, Ellie a la combine. Enfin, quel est le rapport entre Cédric O, notre secrétaire d'État au numérique, et l'insurrection au Capitole à Washington ? Vous le saurez tout à l'heure avec Jean-Christophe. iWeek, la semaine Apple, le podcast, épisode 21. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. À nouveau, très belle année 2021 en ce 14 janvier, année qu'on va passer ensemble avec ce rendez-vous du jeudi avant 20h que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Merci beaucoup de votre fidélité. Alors vous le savez, vous pouvez écrire un avis sur Apple Podcast. Je vous y encourage chaque semaine. L'écrasante majorité de vos messages est dithyrambique et on ne s'en lasse pas. Et puis un jour, eh ben on se prend un missile en pleine face. Et c'est tellement gratuit que ce message-là, je tiens aussi à le partager avec vous. Il n'y a pas de raison. Le débat d'idées sera toujours le bienvenu avec nous, mais je n'accepte pas qu'on s'en prenne à vous, oui à vous mes amis, à vous mon équipe. Alors je vous donne la lecture de ce message qui commence par ce titre insupportable. Son auteur s'appelle Thomas et Thomas a écrit « L'auditeur ne fait pas partie de l'équation. Qu'ils fassent leur émission entre eux. Entre les ricanements benêts de Vincent, alors Vincent j'imagine que c'est moi, sauf que mon prénom c'est Benjamin, et je pense qu'il suffit juste d'écouter un tout petit peu sérieusement le podcast pour se rendre compte, et donc entre mes ricanements, la voix horripilante du prétentieux revendeur, ça c'est sans doute pour toi Ellie, le prétentieux revendeur, Gilou qui n'arrive toujours pas à parler, comment oses-tu parler de Gilles dont tu n'as pas idée du courage chaque fois qu'il se met devant un micro ? Je continue la lecture. Le JC qui parle aussi vite que Jacques Santini, et là c'est une référence football, attention, hein, avec cet ancien joueur de Saint-Etienne devenu entraîneur des Bleus de 2002 à 2004, on se demande bien ce que ça fait là. Et donc, entre tout ça, écrit-il, c'est l'horreur, en quête d'actu, j'ai voulu refaire un essai, mal m'en a pris. Alors la note évidemment est proportionnelle, s'il avait pu mettre 0, bah, on y avait droit les amis. Alors voilà, on peut dire que c'est le jeu, vous êtes libre et des messages qui nous touchent parce qu'ils nous blessent, des messages insultants, pas tellement vis-à-vis de notre modeste petite intelligence, mais de notre nature, celle qu'on ne peut pas changer. Évidemment, on en recevra d'autres, mais c'est tellement facile de se cacher derrière un pseudo, surtout quand on se présente bien propre sur LinkedIn, n'est-ce pas Thomas, en chemise et en cravate. Tu sais quoi Thomas ? Eh ben, on va t'inviter dans le podcast. Viens donc faire le beau avec nous, viens participer à un prochain épisode, montre-nous ce que tu ferais tellement mieux que nous, sors du bois et de ton pseudo-anonymat. À défaut d'avoir compris mon prénom c'est Benjamin hein, et pas Vincent, tu retiendras peut-être au moins le hashtag. Le hashtag c'est iWeekLSA. Et pour participer, il te suffit de te manifester sur Twitter avec ce hashtag iWeekLSA pour participer donc à un prochain épisode d'iWeek, peut-être qu'en nous découvrant l'intérieur. Tu gagneras peut-être un petit peu en tolérance et en gratitude pour ce que nous faisons bénévolement. L'invitation est lancée, on verra bien ce que tu en fais. Voilà, la parenthèse est déjà refermée.
Non, elle n'est pas refermée. Elle n'est pas refermée, je suis déçu, moi, j'ai rien pour moi. Donc j'étais inquiet, j'attends un commentaire sur moi,
C'est vrai que t'as pas eu le droit à ta salve, toi, François.
C'est peut-être parce, que je suis invisible.
Il était à court de caractère, c'est peut-être pour ça. Non, il n'y a peut-être pas d'argument, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que tu as échappé au tir de missile, François. Je voulais dire bonjour à Ellie en premier, alors je commence parce que voilà, la statue du commandeur. Salut, Ellie.
Et salut. Bon, en tout cas, moi, je suis d'accord sur un truc, c'est que moi, quand je m'écoute, moi, j'aime pas ma voix, mais je crois que ça arrive à chacun d'entre nous, sauf toi, Benjamin. Mais moi, j'aime pas ma voix, mais c'est comme ça, hein. Je me fais violence.
Eh ben, écoute, je sais pas si moi, je suis très habitué depuis toutes ces années, mais moi, je la trouve très bien, ta voix, et je te trouve très clair, notamment quand tu expliques des trucs qu'on ne sait pas sur Apple, sur son fonctionnement interne, voilà, c'est très précieux. Voilà. Après, voilà, on parle d'éléments subjectifs, c'est ça qui me...
Chacun a droit d'exprimer ça, et tu as bien fait d'en parler, moi, je trouve.
Bon, bah écoute, tant mieux, je tenais à défendre l'honneur de cette équipe. On te retrouve tout à l'heure pour un C'est tout nouveau, Élie, hein ?
Oui, absolument. Tu veux des petits détails ? Tu veux...
Ah ouais, bah oui, un petit teasing.
Bah, je vous ai préparé, comme c'est l'heure avant le repas, au moment où vous écoutez ça, je vous ai préparé un petit dîner avec une entrée, un plat et un dessert. Voilà.
Ah, ça, c'est gentil. Bon, je crois qu'il sera question des AirTags qui n'existent pas encore officiellement.
Oui, mais qui existent déjà, en fait, dans iOS. Et je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à la section où vous allez pouvoir avoir vos AirTags. Évidemment, là, il n'y en a pas, hein, mais vous allez voir qu'avec une simple commande, vous allez pouvoir afficher cette chose secrète qui se cache dans votre iPhone.
Génial. À tout à l'heure, Élie. Super. Salut, Jean-Christophe.
Salut Benjamin, salut à tous, ravi de vous retrouver cette semaine encore.
En forme après cette semaine d'actu intense aux États-Unis.
Eh bien écoute, j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis confiant dans l'avenir, on va dire ça comme ça.
Et on va dire qu'aujourd'hui, vu d'ailleurs, va être assez directement lié à ce qui s'est passé la semaine dernière au Capitole.
Et oui, bien obligé, puisque la technologie s'est invitée de plein fouet dans la discussion, et face aux déclarations, notamment des politiques de tous bords, voilà, ça, j'ai repris ma casquette de juriste, et je trouvais intéressant de faire un point là-dessus.
Et bah, à tout à l'heure, Jean-Christophe, pourvu d'ailleurs l'actu Apple vue des États-Unis. Et salut François, donc, re-salut mon François.
Bonjour Vincent, Benjamin.
T'écoutes rien toi non plus, hein ?
Ouais, c'est ça, ouais. Depuis le temps
après
qu'on se connaît
maintenant. Après toutes ces années. Bon, sacré farceur François. Toi aussi, hein, comme moi, tu as vécu ce premier CES virtuel. Et donc, il y avait aussi du HomeKit dedans.
Ouais, il y avait un peu de HomeKit. Moins que certaines années, je pense. Enfin, vous qui avez l'habitude d'y aller, je pense que vous serez bien placé pour évoquer ça aussi. Mais ouais, non, il a fallu que je farfouille un peu pour trouver quelques nouveautés quand même.
Bon, ce sera tout à l'heure avec toi dans ce nouveau numéro de Ma Maison Connectée, François. Et puis, on va te retrouver aussi pour le test de la semaine. Et là, on peut parler d'un accessoire de sécurité qui est quasi indispensable.
Oui, j'ai l'occasion de faire pas mal de vélo, on en reparlera tout à l'heure. Et je vais vous proposer un petit test d'un petit éclairage connecté.
De chez Cosmo Connected.
Yes, et qui a beaucoup d'avantages que je vous listerai tout à l'heure.
Formidable François, voilà le programme, on va pas oublier le tuto audio, comment désinstaller Flash d'Adobe sur votre Mac, et nos coups de cœur, ce sera en fin d'épisode. Abonnez-vous à iWeek, la semaine Apple, le podcast, c'est gratuit, on a besoin de vous pour monter dans les classements. On est dispo sur les principales plateformes de podcast, les meilleures évidemment, dont Spotify et Deezer. Et puis nous soutenir, c'est aussi nous aider financièrement, si vous... Oui, vous, au moins vous, hein, vous appréciez le travail qui représente ce podcast tout au long de la semaine. À partir d'€1,50 par épisode, c'est à peine le prix d'un café. Une seule adresse pour nous soutenir, patreon.com/iWeek. Cette semaine, une mention très spéciale, un merci infini, et bien plus encore à Nicole Baron, qui habite tout près de chez Gilles Dounès, qui nous apporte un soutien one-shot de 500€. Merci Nicole de donner ce magnifique exemple à d'autres potentiels mécènes attachés à la liberté de l'information, y compris quand il s'agit de l'écosystème Apple. Dans un instant, on attendait une grosse annonce d'Apple ce mercredi. Elle est arrivée et elle est importante. Elle nous parle, mais elle tient en une minute. A tout de suite. L'info de la semaine, c'est le CES 2021 qui ferme ses portes dématérialisées ce jeudi soir. Un CES 100% virtuel pour la première fois, Covid-19 oblige. Moins de 2000 exposants sur ses stands online contre plus de 4000 stands en bois et en carton d'habitude dans les allées du Convention Center de Las Vegas et les hôtels du Strip. Maintenir un CES dans ces conditions, c'était quand même un tour de force. Alors comme d'habitude, Apple n'était pas présent officiellement, mais le Consumer Electronics Show a encore été l'occasion d'une foule d'annonces qui concernent l'univers Apple, directement ou indirectement, et on va en parler dans un instant. Mais d'abord, on va prendre quelques instants pour cette info purement Apple. Mardi soir, CBS teasait une annonce d'Apple qui devait intervenir le lendemain autrement dit ce mercredi.
They have a big announcement that they want to announce tomorrow. It is not a new product. We should say it is not a new product.
Yeah, don't get everybody excited.
It's something I think bigger and better than that.
Gayle King, la présentatrice de la matinale CBS This Morning, précisait qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau produit, mais selon elle, c'était mieux et encore plus gros. Et du coup, Ellie, eh ben, tu t'es branché sur CBS ce mercredi midi.
Et oui, et ça correspond au début de matinée aux États-Unis, car je vous rappelle qu'il y a 6 heures de moins. Et c'était très intéressant parce que ça m'a permis de retrouver les programmes de la télévision américaine tels qu'on les voyait quand on était au CES ou à San Francisco. Et j'avais oublié à quel point ces programmes sont particuliers. C'est-à-dire que je me suis tapé 1h30 d'émissions avant d'arriver au sujet qu'ils avaient annoncé comme étant le sujet majeur. Tout ça entrecoupé de pubs qui faisaient à peu près 80% du temps d'antenne. Et à chaque coupure de pub, ils rappelaient le sujet, mais qui est arrivé à la fin. J'avais pratiquement renoncé, hein. Et le sujet a été assez rapide, effectivement. Et c'est une initiative Apple, en même temps, c'est des RP, parce que c'était une interview, mais pas une longue interview comme 60 minutes ou des choses comme ça. Donc, ils ont annoncé une initiative tout à fait dans l'air du temps, puisqu'Apple met sur la table 100 millions de dollars, ce qui est quand même important, pour promouvoir l'égalité entre les races et la justice, ça s'appelle la régie. Donc j'ai failli, c'est là où j'ai failli dire à vous Cognac G, mais non, je suis quand même resté. Et en fait, c'est pas mal quand même, hein. C'est-à-dire qu'ils vont créer un centre qui, on voit les photos sur internet, qui s'appelle le Propel Center, pour permettre aux minorités d'apprendre à programmer. Ça, c'est très dans les initiatives Apple, déjà dans les Apple Store, hein, Learn to Code, partout. Et donc, quel que soit votre couleur de peau ou votre code postal, vous pourrez vous inscrire, je suppose qu'il y a quand même des conditions, et apprendre à coder. Après, ils vont aussi lancer une Apple Developer Academy à Détroit, donc destiné cette fois-ci aux entrepreneurs et aux créateurs. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis, ils ont lancé des initiatives dans le capital risque et dans le domaine bancaire pour aider les sociétés appartenant à des minorités situées, par exemple, et ça s'appelle d'ailleurs Harlem Capital, hein, donc le nom n'est pas innocent, pour les aider à décoller. Donc tout ça est vraiment bien, c'est politiquement très correct et ça permet de redonner entre autres une virginité à Apple. Bon, c'est le sujet de Jean-François de tout à l'heure. Comme je ne le connais pas encore, je ne vais pas surtout pas interférer avec sa chronique. Mais Apple était un tout petit peu chahuté par certains. Pour ces initiatives un peu que certains attribuent de censure et d'autres pas. C'est un débat, on va pas en parler aujourd'hui. Et donc, c'est une façon un peu de détourner aussi l'attention, puisque certaines actions de compagnies de technologie étaient un peu en baisse. Donc, ça tombe bien, c'est bien pour les minorités, c'est très bien de la part d'Apple, donc il fallait le faire, donc bravo.
Bravo, absolument. On se réjouira toujours hein, de ce type d'initiative et de prise de conscience, évidemment. Juste comme ça, pour le plaisir d'entendre Tim Cook, voilà ce qu'il me disait sur CBS.
It will have students that come there, and so think of it as an innovation hub. And we'll work on things from coding to machine learning to creativity to entertainment arts. We want to provide people a mechanism to learn to code, to learn how to write world-class apps. You want to feel that desire of someone who really wants to make a go at this. We have one program that's focusing on people that have not studied coding at all.
Do you think anybody can learn to code, Tim? It's so intimidating to me. Do you think anybody can learn to do it?
I do.
Can you do it? Can you?
I can. You know, I did it in school. Once you start, you recognize that it's just another language.
Et alors moi, il y a un tweet qui m'a fait sourire. C'est le tweet de Travis MCP qui dit « La grosse annonce d'Apple ce mercredi, c'est qu'ils ont enfin fait boucler John Prosser. » Et John Prosser, si vous ne le savez pas, c'est un analyste tech qui a 337 000 followers et qui diffuse beaucoup de bêtises sur Apple pour se faire mousser. On en parle de temps en temps dans Hey Week.
Et oui, c'est le grand ami de Jean-Christophe. Hein.
Voilà, c'est le grand ami de Jean-Christophe. Et il dit tellement de bêtises que Phil Schiller l'avait bloqué, par exemple, sur Twitter. Et John Prosser, bah, il s'en vante d'ailleurs dans sa bio. Malheureusement, la grosse annonce Apple de la semaine ne concerne pas John Prosser de ce point de vue-là. Non, pour trouver des infos qui concernent vraiment Apple cette semaine, bah en fait, il fallait se brancher sur le site web du CES, ces.tech, T-E-C-H, en étant dûment accrédité. Et il fallait suivre les 4 jours de salon virtuel organisé pour la toute première fois par la Consumer Technology Association et notre ami Gary Shapiro, à qui je tire personnellement un énorme coup de chapeau pour avoir convaincu et réuni quand même plus de 1700 exposants sur des stands virtuels. Et si le CES nous intéresse dans Hey Week, la semaine Apple, le podcast, c'est parce qu'une quantité importante d'annonces qui concernent l'univers Apple, soit directement, soit indirectement, ont été faites. Alors, directement d'abord, une série de marques qui ont annoncé des produits pour l'univers Apple. Si je vous dis Belkin, hein, vous voyez tout de suite de quoi il va s'agir, avec un multi-chargeur MagSafe au design blanc et chrome, avec un anneau MagSafe au bout d'un bras vertical qui permet de positionner son iPhone 12 en mode portrait ou en mode paysage et de le charger avec du 15 watts, donc la charge la plus rapide. En dessous, vous avez un chargeur QI pour charger ses AirPods ou ses AirPods Pro, arrivé dans les Apple Store en mars ou en avril à $99 hors taxe. On retrouve d'ailleurs un multi-chargeur au design très proche chez Satechi ou Satchi, je ne sais pas comment tu dis, Ellie.
Satechi, moi je dis, mais...
Satechi, pour lequel les précommandes sont déjà ouvertes. Son prix, $59.99, mais attention, la recharge de l'iPhone 12 ne se fait qu'en 7.5 watts, et donc elle est deux fois moins rapide. Belkin a aussi présenté les Soundform Freedom, des écouteurs Bluetooth True Wireless très particuliers pour une raison, je vais y venir. Ils sont blancs, ils sont étanches, 8 heures d'autonomie plus 20 heures dans l'étui. Étanche donc IPX5, recharge via USB-C et induction QI, justement, la même que sur le chargeur dont on vient de parler. La réduction de bruit. Mais la vraie nouveauté, c'est l'intégration de localiser. Vous savez, cette technologie Apple qui s'ouvre à des produits tiers depuis l'ouverture d'un programme destiné aux constructeurs tiers en juin dernier, depuis l'apparition d'une app dédiée dans iOS 14. Technologie qui n'est donc plus réservée seulement à votre Mac, à votre iPhone, à votre iPad ou à vos AirPods et AirPods Pro. 6 mois plus tard, voici donc les premiers produits compatibles qui commencent à pointer le bout de leur nez. Alors au CES, on a aussi parlé du Wi-Fi 6, nous avait occupé au moment du lancement des Mac M1, vous en souvenez. Link6 a profité de ce CES pour officialiser son nouveau routeur Wi-Fi 6E, l'AXE8400. Et le E fait toute la différence puisque c'est la nouvelle génération de Wi-Fi 6. Les produits Apple ne sont pas encore compatibles avec ces 1200 MHz sur la bande des 6 GHz. Ce sera peut-être le cas des Mac M1, en tout cas de ceux qui arriveront dans la deuxième partie de l'année. Ce routeur est annoncé à $450 hors taxe quand même, hein. Pas donné, et il arrivera au deuxième semestre. De son côté, TCL a lancé une barre de son compatible Dolby Atmos et AirPlay 2, annoncé pour le troisième trimestre à un prix qui n'est pas encore communiqué. Quant aux télé TCL de la série 6, dont la version 8K doit arriver dans le courant de l'année, elles sont AirPlay 2 et elles permettent aussi d'utiliser l'appli TV d'Apple grâce à une mise à jour qui est dispo depuis 2 mois. Alors au CES 2021, on a aussi parlé CarPlay avec le nouvel autoradio Pioneer, également compatible Android Auto et Alexa, mais ça c'est juste pour être hyper complet que je le dis. Écran tactile de 6,8 pouces, il accepte le HiRes Audio et les fichiers FLAC. Il arrive cet été. Je vous fais pas la liste.
J'ai un truc à rajouter sur l'autoradio. Ah,
il arrive cet été. T'as un truc à dire, François, sur l'autoradio ?
Il a un truc fun, c'est que en fait, t'es pas obligé de mettre l'écran sur le boîtier, tu peux le mettre ailleurs si j'ai bien vu sur Internet. Et ça, c'est plutôt marrant.
Il est déporté en fait, c'est ça ?
Ouais. Et je trouve ça pas bête pour des voitures qui auraient pas l'espace pour mettre l'écran directement sur l'autoradio. Voilà.
Pas con, pas con. Alors, j'avais vu la photo, mais je n'avais pas fait gaffe à ce détail qui, effectivement, est important. Alors, je vous évite la liste des étuis et accessoires magnétiques pour la gamme iPhone 12. PopSockets, Anker et beaucoup d'autres ont dégainé leurs produits. Très intéressant aussi, et là, on est sur du indirect, on va dire, par rapport à ce que je vous expliquais en ouverture. Les conférences et les annonces des fondeurs, vous savez, qui sont désormais des concurrents en partie d'Apple avec son M1, à commencer par Intel, qu'Apple est donc en train d'abandonner et qui a annoncé sa nouvelle génération de puces, la 12e génération baptisée Alder Lake. Bah en fait, on retrouve la même philosophie de conception et de concentration des composants que dans la puce M1. Alors, les premiers ordis Alder Lake arriveront au deuxième semestre. Y aura-t-il encore des Mac Intel à ce moment-là? Bah, mystère, hein. On se souvient qu'en juin, Apple disait avoir encore des Mac Intel dans le pipeline. Mais depuis, les nouveaux iMac Intel sont arrivés en août. Alors, bah, on ne sait plus du coup. Et il faudra peut-être attendre la conférence d'annonce des résultats trimestriels d'Apple le 27 janvier. Et donc, dans 15 jours, pour peut-être avoir des indices sur la suite de cette transition. De son côté, AMD, dont on retrouve les cartes graphiques Radeon dans certains MacBook Pro, iMac, iMac Pro, a réagi à l'arrivée du M1 d'Apple en le qualifiant d'opportunité pour innover davantage, à la fois côté hardware et côté software. Je vous ai gardé le produit le plus surprenant pour la fin. C'est un personnaliseur de parfum. Qui est piloté par votre iPhone. En fait, il s'appelle Ninu, N-I-N-U. C'est un petit cylindre très design qui contient trois cartouches de senteurs. Et en fait, l'iPhone va modifier le pourcentage des trois senteurs selon vos besoins et votre humeur en temps réel. Tout ça est aidé par une intelligence artificielle, un maître parfumeur, comme on dit, virtuel, dont le prénom est Pierre. Voilà, très français. La start-up... Hein, pourquoi pas, hein. La start-up promet plus d'un million de variations du parfum pour ne jamais sentir exactement pareil. Ça peut être intéressant. On ne connaît ni le prix de Ninu, ni la date de sa commercialisation. On reviendra au CES tout à l'heure avec toi, François, pour les nouveautés HomeKit. Je sais pas si vous avez une petite réaction sur ce que je viens de vous raconter. Apple très présent, mais toujours absent.
Comme d'habitude, hein. Mais on parle d'Apple et c'est ça l'essentiel.
Et puis on remarque que les fabricants se sont rapidement emparés du nouveau MagSafe, parce qu'il y a quand même eu beaucoup beaucoup de nouveautés de ce côté-là, et on voit qu'Apple a sans doute encore réussi son coup, parce que n'oublions pas que sur les chargeurs MagSafe, enfin les appareils coque et compagnie compatibles MagSafe, Apple doit toucher une petite dot, je pense.
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Comme le localiser, je pense, hein, y a aussi une petite rente, hein, sur cette fonction-là.
Ça paiera les 100 millions pour les minorités.
Exactement. Allez, dans un instant, le test de la semaine. Je l'avais découvert au CES de Las Vegas, justement, il y a 2 ans. Pas besoin de permis moto, en scooter et même en vélo. Cet accessoire de sécurité peut-être vous sauver la vie. À tout de suite. Mon cher François.
Je suis prêt, Benjamin.
Bah, c'est une super idée que tu as eue d'attirer notre attention sur cet accessoire imaginé en France par Cosmo Connected, dont l'un des fondateurs, je ne sais pas si tu le sais, est le fils d'Alain Afflelou. Alors, il ne s'agit pas de lunettes, et pour une fois, il n'est pas fou, Afflelou. C'était mon lancement.
Ah, donc il fallait que je démarre là-dessus. D'accord, je pensais que tu voulais me passer le plateau différemment, mais c'est pas grave, je peux démarrer là-dessus si tu veux. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois de mai, le premier des trois déconfinements, des deux, ah non, je sais plus, ah non, j'anticipe, pardon, le troisième, c'est pour dans 2 mois.
Ou dans 8 jours.
On a vu les pistes cyclables se densifier, surtout en région parisienne. Je pense que Benjamin et Jean-Christophe, vous êtes bien placés pour en parler. On a même vu des boulevards entiers réservés aux cyclistes maintenant. Et c'est vrai que de mon côté, moi aussi, je me suis mis au vélo taf. Alors, pour plusieurs raisons, il y a une raison un peu écologique. Le vélo taf, tu connais pas l'expression?
Mais non, c'est quoi le vélo taf?
La team vélo taf, tu taperas sur Twitter, tu verras, les vélo tafeurs sont très actifs. C'est les gens qui prennent leur vélo pour aller au travail.
Waouh!
D'accord.
Voilà. Donc,
très bien.
Il y a beaucoup de gens qui le font.
Moi, je suis car taf. parce que je prends ma voiture.
Car taf électrique, donc ça passe.
Pas du tout.
Alors, plus pas maintenant, du hein, tout. Je pensais qu'elle était électrique quand même.
Non.
Ah. Ouh. Donc, pour en revenir à nos moutons, donc je me suis mis au vélo pour plein de raisons, raisons écologiques, et puis aussi parce que finalement, je mettais autant de temps à aller à vélo qu'en voiture. Donc, il y a un moment où on se dit finalement, autant en profiter pour faire un peu d'exercice. Le problème, quand on fait du vélo-taf, c'est que bah, la nuit, il faut se faire voir. Alors, je vous rassure, hein, je suis équipé, j'ai le gilet jaune, les gants jaunes, les lumières sur le sac à dos, sur le vélo, à l'avant, à l'arrière. Et depuis Noël, j'ai aussi des lumières sur le casque, avec le fameux Cosmo Ride, que je crois, Benjamin, tu avais découvert à Las Vegas il y a deux ans.
Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai déjà vu, mais pour tous nos amis qui vont le découvrir avec ce test, concrètement, ça ressemble à quoi, François ? C'est pas juste une lumière ?
Alors non, en fait, il y a deux morceaux, il y a deux parties. Il y a une première partie qui est un bandeau lumineux, donc sur un morceau de plastique, hein, qui se recharge en USB d'ailleurs. C'est dommage, c'est pas de l'USB-C, c'est du vieil USB, mais quand même, ça se recharge en USB, donc ça, faudra juste penser à le recharger régulièrement. Donc c'est un bandeau lumineux qu'on peut placer soit à l'arrière du vélo, soit sur le casque. Donc en fait, ce bandeau lumineux, il est éclairé en rouge et ou en orange. J'explique. En fait, vous avez le choix, soit le bandeau éclairé en continu en rouge, soit le bandeau va clignoter en rouge fort et rouge moins fort, pour signaler donc aux personnes qu'on est là. Ou alors, vous allez carrément pouvoir lui mettre un rouge fort et éteint. Donc, il y a ces trois modes-là. Alors, c'est un peu compliqué. Rouge fixe, rouge foncé, rouge clair, rouge foncé, éteint. Donc, l'intérêt, c'est que voilà, en fonction de ce que vous préférez, moi, c'est vrai que généralement, j'ai tendance à le mettre en clignotant. Et cette bande LED rouge, en fait, elle est doublée par une bande LED orange qui est coupée en deux sur chaque moitié du Cosmo. Et en fait, ça permet de faire un clignotant. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez activer sur la deuxième partie du Cosmo Ride, ça va clignoter soit à gauche, soit à droite. Donc vous avez effectivement une deuxième partie pour activer ce clignotant. C'est un petit, on va dire Komodo, un petit panneau de commande que vous pouvez fixer sur le guidon de votre vélo, où vous avez trois boutons. Donc vous avez un bouton pour indiquer que vous allez à gauche, un bouton pour indiquer que vous allez à droite, et au milieu du Cosmo, de la manette du Cosmo, vous avez un bouton pour changer les modes, en fait. Logiquement, ça indique aussi, alors je ne l'ai pas vu fonctionner, parce qu'il est sur ma tête, donc... Voilà, faudrait que je fasse le test avec avec quelqu'un d'autre sur un vélo pour vérifier. Mais logiquement, si vous faites une décélération très forte, ça s'affiche en rouge et donc ça indique aux personnes qui pourraient vous suivre que vous êtes en train de vous arrêter, de freiner brutalement.
Bon, François, si tu nous en parles, c'est que c'est connecté à nos iPhones.
Évidemment, mon côté geek est là, bien évidemment. Donc en fait, vous pouvez télécharger une application sur votre iPhone, donc qui vous permettra de piloter votre Cosmo Ride. Alors faites juste attention, il y a deux applications sur l'App Store. Il y a une application qui s'appelle Cosmo Ride, que j'ai téléchargée en premier, et j'ai jamais réussi à m'authentifier avec mon compte Cosmo. Donc il a fallu que je télécharge l'application Cosmo tout court, qui m'a permis de le relier à mon téléphone. Donc l'intérêt, il est multiple. Soit donc on peut utiliser l'iPhone à la place du panneau de commande, c'est-à-dire qu'on peut le fixer sur notre guidon, et donc du coup vous avez la carte GPS de votre tracé, et en plus vous avez moyen d'activer les différents boutons. Alors moi je l'utilise pas comme ça pour plusieurs raisons, déjà je trouve ça pas hyper pratique, parce que les boutons sont moins visibles, c'est en bas de l'iPhone, donc à toucher. Déjà les commandes classiques c'est compliqué, parce qu'elles sont pas directement sur la manette du guidon, elles sont à côté, donc il faut vraiment décaler la main pour l'activer et le désactiver. Et puis moi j'utilise plutôt l'activité sur l'Apple Watch et sur l'iPhone. Et puis ça permet aussi, donc l'application, de rentrer trois numéros de ce qui est appelé les anges gardiens. En fait, concrètement, vous rentrez un, deux ou trois numéros de téléphone au maximum, et ces personnes-là, en fait, vont recevoir une notification en cas de chute. C'est un petit côté rassurant, je trouve, et l'autre intérêt, c'est qu'ils peuvent suivre aussi le trajet en direct, s'ils ont l'application Cosmo. Alors ça, je suis moins fan, mais le côté ange gardien, je trouve ça plutôt cool.
Bon, je crois que ça fait une semaine que tu l'utilises, François. Quel est ton premier bilan avec les points positifs et négatifs ?
Alors, bah, les points positifs, il y en a plusieurs. Déjà, ça éclaire vraiment bien. Je trouve ça vraiment impressionnant, que ce soit les clignotants et autres. C'est un réflexe à prendre, hein, clairement. Activer les clignotants, il faut y penser. Et j'ai fait un peu plus longue sortie ce midi. Et en fait, au bout d'un moment, on oublie un peu de les activer. On reprend le réflexe de mettre le bras. Mais je pense que ça viendra vraiment avec le temps. L'histoire des anges gardiens, c'est un côté rassurant aussi. C'est mon beau-père qui me l'a offert. Et ça rassure fortement ma compagne de savoir que s'il m'arrive quelque chose, elle aura une notification en temps réel disant que je suis tombé.
C'est bien, ça veut dire qu'il tient toi.
C'est pour ça que je l'ai mis, hein. Je le remercie, peut-être qu'il sera en train d'écouter le podcast, merci Dominique.
On l'embrasse alors.
Et les clignotants, ça se voit quand même potentiellement mieux que le bras la nuit. Alors évidemment, si on a des gants jaunes phosphorescents, le bras se voit bien. Mais de nuit, des fois, moi, je le fais aussi avec des gants noirs. Et de nuit, ça se voit peut-être moins que les clignotants. Donc ça a des voilà, côtés plutôt sympas. En point négatif, je trouve que les petites diodes, c'est ce que j'avais lu sur Internet, les petites diodes qui indiquent sur le Komodo quel mode est activé, en fait, elle se voit pas trop. Donc, on perd un peu le. Faut vraiment jeter un gros coup d'œil pour vérifier qu'on a bien désactivé le clignotant. Au bout d'un moment, il se désactive.
Mais c'est vrai que le Komodo, c'est la partie que tu fixes sur le guidon.
Sur le guidon, c'est ça. Donc, du coup, voilà, faut faire attention, bien vérifier histoire de pas induire en erreur les personnes qui pourraient nous suivre. Et le prix est, je trouve, relativement raisonnable pour le produit. C'est 70€. Si j'ai juste un autre petit bémol, c'est le fait que le site ne vend pas uniquement la partie éclairage. On est obligé en fait de racheter le truc complet, et moi j'aurais trouvé ça sympa de pouvoir acheter juste la partie éclairage et de pouvoir relier les deux parties ensemble. Ce qui fait que j'en aurais eu un sur le vélo et un sur le casque, et avec le seul Komodo, je pilotais les deux. Je suis obligé de tout racheter, je ne sais même pas si un Komodo est capable de guider les deux, ce serait à confirmer.
Et petite question, comment tu le fixes sur ton casque ?
Alors, sur le casque, t'as deux possibilités. T'as la version qui plus pensée pour les motos à la base avec un autocollant. En fait, tu fixes un autocollant sur le casque et tu rajoutes l'élément dessus. Ou alors, t'as des petites accroches, des sortes de petites sangles que tu peux fixer sur le guidon et sur le casque. Ou sur l'arrière de ton vélo. C'est vrai, enfin, honnêtement, c'est vraiment bien fait. Je trouve que pour 70€, c'est assez raisonnable. Et ils ont tout un écosystème aussi de casques Cosmo avec le système intégré directement. Et sac à dos aussi.
Comme c'est un test, François, ta note sur 5 ?
Oh, je mettrais un bon 4. Je trouve que c'est un bon produit. Et puis en plus, voilà, ça, au niveau sécurité, je trouve que c'est vraiment intéressant.
On rappelle que c'est un produit français.
En plus.
Cosmo Connected, boîte française, même si le nom ne le laisse pas trop penser. Merci beaucoup, François, pour ce test de la semaine. Et moi, je ne saurais trop vous conseiller cet achat qui peut vraiment faire la différence. Si vous circulez à vélo ou en deux roues comme moi, votre sécurité, d'abord, dans un instant, la veille techno et les combines de Mister Ellie. C'est tout nouveau, c'est avec toi toutes les semaines, Ellie, dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Tu veux garder ma DeLorean, c'est ça, d'il y a 15 jours?
Et oui, t'as eu la gentillesse de me la prêter, alors du coup, avant de te la rendre, j'ai profité encore pour aller me balader un peu dans le futur, et même, je l'avoue, un peu dans le passé, et vous allez comprendre tout de suite après.
Mmh.
Donc, alors, j'ai rien trouvé de super, super passionnant, hein, parce que tout le monde était concentré sur le CES, et on vient d'en parler, et vraiment toute la planète regardait le CES. Mais quand même, j'ai trouvé des petites choses sympathiques. Et donc, je vous propose une sorte de dîner virtuel en trois plats pour vous faire saliver un peu en attendant que vous passiez à table. Alors, en entrée pour vous ce soir, je vous propose une bonne nouvelle pour nos amis parisiens. Donc, et oui, car ça y est, enfin, le Pass Navigo que tous les Parisiens utilisent, enfin tous les habitants de la région parisienne utilisent, est enfin devenu compatible iPhone et utilise la technologie NFC. On savait le faire sur Samsung, Apple n'avait pas tout déverrouillé dans le NFC, donc ça avait pris du retard, et tous les utilisateurs d'iPhone râlaient, la SNCF avait fini par dire, la SNCF, la RATP, excusez-moi, hein, c'est
oui,
commentaire de provençal, moi. Donc, ils avaient fini par dire, oui, ça va arriver, ça va venir, on l'attendait vraiment pour fin janvier, début février, et là, à la grande surprise des utilisateurs, ça y est, c'est disponible, il suffit de télécharger l'app sur l'App Store et en fait du coup vous rechargez et vous passez avec votre téléphone dans là où vous mettez un Pass Navigo, je suppose dans tous les métros, probablement les bus aussi. Donc
et donc ça suppose d'avoir quel iPhone, parce que le NFC est arrivé
alors
relativement
récemment, hein. Oui, tous les iPhones je crois à partir du 7 si je me rappelle bien. Il y a pour l'instant un bug sur les iPhone 10S et 10S Max pour une raison mystérieuse c'est expliqué sur le site, ça ne marche pas encore. Mais ça marche sur ceux d'avant et ça marche sur ceux d'après. Je ne sais pas quelle était la particularité du S.
Mais donc ça sinon, marche sur les 11, le SE, les 12 notamment.
Oui, a priori. Mais comme il y a plein de Parisiens qui nous écoutent et que dans l'équipe, nous avons aussi des Parisiens.
Oh oui.
Vous allez nous faire un petit test et comme ça, on pourra en parler dans un prochain numéro.
Oh, compte sur moi et j'ai deux petits testeurs aussi à qui je vais passer l'info.
Super. Donc ça, c'était ma petite entrée.
Alors, délicieuse, merci. On s'est régalé. Bah,
alors là, maintenant...
J'ai encore faim.
Ben oui. Alors passons au plat de résistance. Alors au plat de résistance, je vous parle AirTag. Tadam ! Ben oui, encore des AirTags, encore, je sais.
Cette rumeur, tu veux dire ?
Oui, oui, il n'y a pas d'annonce encore, hein, sinon on aurait mis la bannière genre BFM TV avec scoop, inédit, jamais vu, enfin bref, non. C'est juste parce que justement, en me baladant un peu dans le passé, je me suis rendu compte que les AirTags, en fait, on avait commencé à en parler dans les rumeurs en 2019. Et en 2019, il y avait déjà des copies d'écran dans les bêtas d'iOS 13, hein, donc imaginez que ça remonte, hein, qui faisaient référence à ces petits trackers ronds. Et à l'époque, ils avaient un nom de code assez cocasse, B389. Donc, allez trouver. Depuis, il y a eu différentes fuites. Dans iOS 14, c'est dans le code. Il y a eu même des vidéos qui ont fuité, des rendus en 3D où on voit les AirTags. Donc, et puis, comme Benjamin a dit tout à l'heure, Apple autorise maintenant même les fabricants de produits tiers à ajouter dans l'application localisée ces produits-là. Mais là, on a franchi un petit pas supplémentaire dans le monde mystérieux des AirTags, qui va précéder cette annonce qui, du coup, espérons, ne saurait tarder. Donc, je vous propose de découvrir ça. Vous pouvez le faire avec moi. C'est pas un tuto audio, hein, c'est juste une commande. Hein. Je ne vais pas voler le tuto audio à mon ami Benjamin, sinon on va m'en vouloir beaucoup.
Je suis à fond.
Donc, c'est juste une petite commande. Donc, vous ouvrez vos iPhone 6.
On n'a pas répété, donc on va découvrir avec toi.
Hein, oui, précise. J'ai fait exprès de ne pas mettre la commande pour que vous puissiez tester en même temps. Donc, vous ouvrez votre Safari préféré sur iOS si vous êtes en iOS 14.3. Ouais. Et là, vous tapez la commande magique, elle est très simple. Hein. Find my, F-I-N-D-M-Y,
ouais.
// items, I-T-E-M-S. Donc là, c'est normalement, on vous demande l'autorisation d'ouvrir localisé.
Ouvrir cette page dans localisé. Ouvrir.
Voilà. Et là, pour ceux qui connaissent localisé, il vous a ouvert une nouvelle section inconnue où vous voyez des petits trackers et vous pouvez en ajouter, sauf que pour l'instant, ils ne sont pas là. Mais c'est ce que vous verrez lorsque vous aurez vos AirTags. Et Apple nous l'avait bien caché.
Ouais, mais ces objets, ça peut aussi être justement les fameux écouteurs Belkin dont je parlais tout à l'heure.
Ah, mais bien entendu. Sauf qu'une fois que ces appareils vont arriver, parce qu'ils ne sont pas prévus tout de suite, cette partie-là sera active. Donc et là, pour l'instant, c'était une façon de l'activer en avant-première. Et c'est ce que vous verrez lorsque vous aurez soit des AirTags, soit des produits compatibles. Et là, vous pourrez les biper, vous pourrez les faire sonner. Mais ça veut dire que tout est prêt. Hein. Maintenant, il suffit que les produits commencent à arriver, que ce soit chez Apple ou chez les autres.
Donc, je ne sais pas pourquoi tu dis des AirTags ou autres. On aura des AirTags, ne rêve pas, Ellie.
Oui. Bah oui. Je sais déjà
que j'en achèterai au moins deux. Un pour le sac d'ordi et un pour le sac photo, tu vois.
Et surtout, comme ils utiliseront la micro-localisation avec la puce Apple, je sais comment elle s'appelle, W1, on pourra les retrouver à quelques centimètres près. Hein, donc, ça va être extrêmement précis. Voilà, ça, c'était le petit plat de résistance surprise. Et pour un petit dessert, pour terminer en beauté et continuons, là, c'est un peu plus dans le futur. Apple a déposé des brevets récemment, et vous savez qu'il y a un site qui s'appelle Patently Apple qui suit tout ce que fait Apple au niveau brevet. Et donc,
depuis très longtemps.
Oui, et donc Apple a déposé des brevets pour des nouvelles coques iPhone, y compris avec rabat ou sans, qui vont permettre de charger, mais aussi du coup de protéger des accessoires comme des AirPods. Et c'est assez étonnant quand on regarde. On mettra le lien, si vous voulez, sur Twitter pour que vous puissiez aller le découvrir en attendant de les mettre bientôt sur notre site. Et c'est assez étonnant parce que on a par exemple une coque qui ressemble à une coque avec un volet, et les AirPods peuvent se mettre soit au-dessus du iPhone dans des sortes de petits étuis, et en même temps ça les charge par induction, et en même temps quand vous voulez les utiliser, ben, il suffit de les sortir, ou alors sur le rabat on peut les mettre dans des petites encoches qui sont sur le rabat. Ça les charge et ça les protège, et du coup, plutôt que d'avoir votre iPhone avec vos AirPods ou AirPods Pro dans une poche où ils se rayent, que vous n'arrivez pas à sortir ou à trouver au bon moment, etc., mais vous les aurez avec l'iPhone. Et du coup, c'est une bonne idée. En même temps, ces nouvelles coques vont me permettre de charger ces accessoires-là et peut-être d'autres accessoires. On est sur ce concept où les iPhones vont servir à charger des choses. Donc, ça peut être assez intéressant. Je vous invite à aller regarder le site, on vous mettra le lien pour que vous puissiez voir les concepts. C'est assez rigolo, comme c'est un brevet, c'est des concepts avec des petites lettres, etc. Ça reste très primaire, hein. C'est pas un rendu 3D, ouais. Hein. Mais ça donne des idées.
Bon, il est pas mal ton dîner pour une semaine où il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent.
Mais voilà, mais je pense qu'on a encore un tout petit peu faim, hein.
Je pense qu'on va rebaptiser ta chronique le dîner d'Eli.
Bon, écoute,
je pense que tu as gagné ce nouveau titre. Bon, merci Ellie en tout cas pour ces infos. On va revenir sur effectivement le Pass Navigo sur iPhone dès la semaine prochaine, c'est promis. Dans quelques instants avec toi, Jean-Christophe, bien silencieux hein, pour l'instant, eh ben, on va prendre la direction de Washington. Alors que toute l'Amérique et le monde ont été secoués par l'insurrection au Capitole le 6 janvier, plus grosse audience télé de toute l'histoire de CNN. 72 millions de visiteurs dans la journée, rien que sur CNN Digital. La tech et Apple ont réagi aux événements qui conduisent à la procédure d'impeachment de Donald Trump. Vu d'ailleurs l'actu Apple, vu des États-Unis, c'est avec toi chaque semaine, Jean-Christophe, dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Alors forcément, Jean-Christophe, les événements de la semaine dernière à Washington ont aussi eu des conséquences pour le monde de la tech et notamment pour Apple.
Et oui, Benjamin. Alors, on est d'accord, on ne fait pas de politique dans iWeek, donc on ne s'attardera pas sur les événements scandaleux de mercredi dernier, ni sur le bonheur qu'on peut légitimement éprouver à ne plus subir certains tweets. Voilà. Cependant, il faut bien constater que les décisions que certaines entreprises, hein, et non des moindres, comme Twitter, Google, Amazon et oui, Apple, auront sans doute des conséquences bien après la prestation de serment de Joe Biden, élu 46e président des États-Unis le 20 janvier.
Alors explique-nous en quoi cet événement du Capitole a des conséquences pour Apple.
Alors, bon, j'essaie de le faire court, mais je pense que le contexte est important pour comprendre. Et parce que en ce moment, plus qu'à n'importe quel moment, c'est primordial, je vais essayer de faire un truc un peu fou. Je vais m'en tenir aux faits. Alors que les émeutiers envahissaient le Capitole, donc mercredi dernier, Trump a tweeté « Voilà ce qui arrive quand on vole une élection ». Il a ensuite partagé, sous forme de tweet, une vidéo dans laquelle il a appelé au calme. Mais il a terminé la même vidéo en disant aux émeutiers toujours, alors qu'ils étaient toujours au Capitole, en train de s'introduire dans des bureaux, voler des pupitres, casser des vitres, il a terminé donc en disant « We love you, you're very special ». Je pense que ce n'est pas la peine de traduire. Ce qui n'était que des mots, la veille encore, ce qu'on caractérisait comme étant l'attitude de Trump prend une toute autre tournure alors que les insurgés donc rentraient dans un bâtiment protégé et qu'on a dénombré 5 morts. C'est concret, c'est plus du tout virtuel. Et c'est ainsi que Twitter, qui avait d'abord annoncé une suspension temporaire du fameux compte Real Donald Trump, le jour même, voilà, a décidé le 9 de supprimer complètement ce compte pour, je cite, prendre en compte le risque accru d'incitation à la violence. Facebook a fait de même pour des raisons similaires, et les autres ont suivi, comme on le verra dans quelques instants. Jamais en retard d'un néologisme, les Américains parlent de « deep platforming ». En bon français, c'est le bannissement des plateformes, le déplatformage, qu'on pourrait traduire comme ça. Ce bannissement, donc, dont est victime celui qui est encore, pour malheureusement quelques jours, le président des États-Unis.
Oui, parce qu'il a aussi perdu son compte YouTube hier matin.
Exactement.
Alors Apple aussi, alors s'y est mis ?
Eh bien oui, là encore, il faut que je rappelle un bout de contexte. Ça nous avait amusé début novembre. Trump et les siens ont renié Fox News comme étant d'un coup d'un seul passé à l'ennemi gauchiste. Les supporters de Trump ont aussi, en très grand nombre, déserté Twitter pour pouvoir se retrouver encore plus entre eux. On sait par exemple que le fameux sénateur Ted Cruz, dont on a déjà parlé ici, les a suivis et revendique 5,9 millions abonnés, près de 6 millions d'abonnés sur une plateforme. Cette plateforme, c'est Parler en français, né en 2018. Alors c'est un nom amusant. En fait, il faut prononcer ça Parler. En anglais et c'est un mot anglais, c'est un mot qui vient de l'époque des pirates et des corsaires. Et oui c'est un mot qui signifie, alors c'est encore plus savoureux ces jours-ci, négociation ou armistice.
Je crois que ça venait du verbe français, moi.
Non. C'est et non. On est bien dans cette idée de on va discuter entre soi, on va arriver à un accord. C'est qu'on prenne qui pourra et c'est à mettre en regard évidemment au débat qui a agité tout le monde depuis une semaine. Et donc Parler, c'est un réseau, mais c'est aussi et c'est surtout une app. Pour utiliser ce réseau, il faut télécharger une application, et vous me voyez venir, les amis, elle est distribuée sur les boutiques d'applications. Google l'a ainsi rendu inaccessible dès le 8 janvier, et Apple a laissé 24 heures à l'auteur de l'app, à la société, au groupe qui édite cette application, afin qu'elle puisse effectivement modérer le contenu des échanges. Parce que évidemment, les échanges sur Parler c'est sur ce réseau que les émeutiers se sont retrouvés pour coordonner ce qu'il faut bien appeler l'attaque sur le Capitole. Et notamment, on sait depuis que certains des émeutiers avaient notamment, vous savez, ces fameuses menottes en plastique. Qu'ils avaient déjà lorsqu'ils avaient fondu sur le gouverneur de mémoire, c'était le gouverneur de la Géorgie pour qui souhaitait non c'est le gouverneur du Minnesota, je crois, qui avait mis en place un couvre-feu pour lutter contre le Covid, pour lutter contre les attroupements.
On appelle ça des rilsans aussi, c'est des sortes de liens en plastique qu'on peut pas enlever en fait.
Exactement. Et donc,
c'est aussi une menotte, c'est vrai. Ouais.
C'est ça. Et donc, ces gens-là à l'époque avaient, tu t'en souviens peut-être, Benjamin, vous vous en souvenez peut-être, les amis, fomenté le projet de simplement kidnapper la gouverneur de l'État pour reprendre leur liberté. Et c'est là que l'effet qui nous occupe met une lumière intéressante sur le sujet. On a retrouvé parmi les émeutiers les mêmes menottes, peut-être, en tout cas c'est ce qui s'est dit sur Parler, pour kidnapper là encore Pelosi, qui est la patronne démocrate du Congrès, voire même Mike Pence, le vice-président, pour traîtrise, puisqu'il avait refusé de ne pas en fait entériner les votes de certains États. Donc Tout ça pour dire, là encore, on fait pas de politique, c'est factuel, c'est ce qui a été rapporté quelques jours plus tard, et c'est de cela qu'Apple s'est ému, c'est de ces messages-là, appelant, comme je l'expliquais il y a un instant, au kidnapping, voire pire, que Google d'abord et Apple ensuite s'est ému pour justement retirer de l'App Store, cette application Parler. On peut remarquer d'ailleurs que Apple a été plus lent que Google et a laissé à l'éditeur un délai d'une journée pour faire le ménage. Ça n'a pas été fait, ou en tout cas pas suffisamment. Voilà, aux yeux d'Apple, il n'en a rien été, et Apple a donc supprimé l'appli le lendemain, donc après 24 heures révolues, en rappelant que il n'y a pas de place sur sa plateforme pour les menaces de violence, dont on en parlait il y a un instant, ou d'activités illégales, des fameuses tentative de kidnapping, et de constater que l'application n'a pas pris les mesures adéquates pour régler le problème de la prolifération de ces menaces. Le même jour, et c'est là où ça devient encore plus intéressant, c'est au tour d'Amazon de supprimer, pour des raisons identiques, mais cette fois de son serveur cloud, AWS, qui est un des plus gros fournisseurs de cloud au monde, là, l'infrastructure même sur laquelle reposait l'application. L'application, évidemment, c'est une app sur laquelle se connectent les utilisateurs, mais pour stocker les discussions, évidemment, ça ne se fait pas sur iCloud, ça se fait sur un prestataire de cloud, et ce prestataire, en l'occurrence, c'est AWS. En perdant d'un coup l'application qui permet aux utilisateurs de se connecter et le stockage qui leur permet d'échanger les messages, évidemment, c'est toute la structure qui disparaît, et ces braves gens, avec tous les guillemets qui s'imposent évidemment, se retrouvent donc sans leur porte-voix, sans leur mégaphone favori. On peut évidemment... Je le dis, je m'engage dans Heroic, je pense que c'est une très bonne chose, mais effectivement, les utilisateurs ont dû trouver d'autres moyens d'expression. C'est en cela que c'est de là que ce mot de censure qu'on entend depuis plusieurs jours est né, ou en tout cas est apparu de manière un peu plus forte que d'habitude.
Ouais. Alors, au-delà des réactions partisanes, ça soulève de vraies questions de fond, presque fondamentales. On parle beaucoup de censure depuis une semaine. Toi qui es juriste spécialisé dans les nouvelles technologies, dans le civil, Jean-Christophe, est-ce que tu as un avis sur le sujet et quel est-il ?
Alors oui, effectivement, moi, mon vrai métier, c'est peut-être aussi pour ça que ça résonne, c'est depuis 20 ans d'être juriste dans les nouvelles technologies de plateforme. Et donc mon rôle, c'est justement aussi de contrôler ce genre de débordement, d'aider parfois les autorités pour des affaires dont je parlerai pas évidemment ici, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, et on est nombreux à faire ce métier-là et être en première ligne. Donc évidemment, je dois dire, en tant que juriste et en tant que citoyen, assez abasourdi d'entendre depuis quelques jours Angela Merkel en Allemagne, Thierry Breton, aujourd'hui commissaire européen en charge des questions numérique, ou même notre ami Cédric O, dont on a déjà parlé hein, dans iWeek et dans Vue d'ailleurs, qui est le secrétaire d'État au numérique en France, crier tous ensemble comme un seul homme, comme on pourrait dire, à la censure et au déni de démocratie. D'abord, on peut remarquer que toutes les entreprises dont je parlais au début de la chronique ont trouvé le courage, on s'entend, hein, c'est le même courage qui est celui dont parlait Apple, tu sais, il y a quelques années quand elle a supprimé le port jack des iPhones, ce courage qu'on met un peu à toutes les sauces et qui là a été trouvé avec un ensemble touchant par toutes ces entreprises, Twitter en tête, mais toutes les autres, 12 jours.
Oui, c'est ça.
Avant que Trump avant la fin de son quitte mandat. La scène, ouais. Au moment où il fallait vraiment agir. Ouais. Alors que, voilà, dans les 4 ans moins 12 jours, on était assez nombreux à attendre une certaine forme d'action. Surtout, quoi qu'on pense de Trump et de ses supporters, on ne doit pas perdre de vue que ces entreprises sont des entreprises, on l'a assez répété dans plusieurs vues d'ailleurs, sont des entreprises privées. L'utilisation de leurs services. Hein. Voilà, on le rappelle, c'est fou d'avoir à le rappeler, mais effectivement, rappelons-le, sont entreprises privées. Loin de moi de dire que ça les rend à l'abri des lois et évidemment de l'État et des démocraties. Au contraire, l'utilisation de leurs services est soumise à des conditions d'utilisation, les fameuses CGU, qu'on ne lit jamais, sauf que si vous les lisiez, moi je les écris, j'en écris certaines, ce sont des contrats, et si on ne respecte pas les termes du contrat, on ne peut pas utiliser le service. C'est limpide, ça s'applique à tous, que l'utilisateur s'appelle Benjamin, Ellie ou Donald. Le paradoxe, c'est que Trump a très longtemps bénéficié justement d'un traitement de faveur. Mmh. On se souvient qu'il avait menacé la Corée du Nord de frappe. on peut parler d'une forme de violence, fut-elle étatique. Et c'est évidemment une forme de violence qui n'est pas admise sur Twitter. À l'époque, Twitter avait été d'ailleurs interpellé sur le sujet en disant qu'un article des CGU interdisait évidemment ce type de déclaration. Twitter avait répondu que au moment des frappes, il s'exprimait, même si c'était sur son compte perso, en tant que président, c'était informatif, c'était la voix d'un président, donc il bénéficiait d'une forme de tolérance. Pas d'une... ce n'est pas que les termes, que les CGU ne s'appliquaient plus. Twitter savait que les actions de Trump, entre guillemets, étaient à l'encontre, j'allais dire bafouées, mais étaient à l'encontre des CGU, mais reconnaissait qui pouvait bénéficier d'une forme de tolérance. Là aussi, c'est dans la droite ligne de ce que fait une entreprise privée, d'appliquer son règlement et de considérer parfois qu'elle peut faire un pas de côté. La semaine dernière, Twitter et les autres ont donc considéré que l'utilisateur Real Donald Trump était allé trop loin. Ils ont donc agi, j'insiste, en appliquant simplement leurs conditions générales.
Oui. Mais quand même, quand on pense à l'importance compris Twitter et les autres réseaux dans notre vie quotidienne, est-ce que c'est pas un peu facile d'invoquer de ta part hein, et des autres l'excuse de l'entreprise privée qui fait juste respecter son règlement quoi.
Mais justement, et ta question est très pertinente, ce n'est pas une excuse, ce n'est certainement pas un joker. L'expression Internet zone de non-droit a fait beaucoup de tort. D'abord, elle est totalement fausse, évidemment, et a fait énormément de tort aux acteurs et à la perception par les citoyens du pouvoir réel de ces acteurs et surtout du pouvoir justement des États et du législateur. On l'oublie trop souvent, mais la loi s'applique à ces sociétés comme à nous tous. Pour revenir à Apple, justement, on est dans Reweek, c'est pas une tribune sur la réglementation sur Internet. Pour revenir à Apple, donc, l'affaire du déplatformage, l'affaire de la suppression de Parler, n'est pas au fond très éloignée de l'histoire de Fortnite dont on avait déjà parlé. Le jeu ne respecte pas les conditions générales de l'App Store en s'affranchissant du système de micro-paiement. Proposé par l'App Store, Apple l'a supprimé du store en mettant en avant les conditions générales et cette rupture de conditions générales de Fortnite. Et Fortnite, effectivement, a crié à la censure en faisant une jolie vidéo parodiant la pub 1984, mais surtout, Fortnite a fait un procès. Fortnite en a appelé à la loi. C'est au juge de déterminer si l'application du contrat, cette fois pas l'app, mais bien l'application du contrat, a été faite à bon droit ou non, c'est au juge. Là encore, on le rappelle, on enfonce une porte ouverte, de juger si Apple est allé trop loin ou pas en supprimant une application, et le juge s'exprime, et le juge va rendre la justice en appliquant la loi. Parler ne fait pas autre chose, puisqu'ils ont intenté un procès contre Amazon, contre AWS, pour la suppression de leur service de cloud.
Trump... Pas contre Apple, ni Google.
Alors, au moment où on se parle, pas contre Apple et Google. Par ailleurs, on pourrait en parler, mais on s'éloigne vraiment du sujet d'iWeek. Le fond de la démarche de Parler, qui fait un genre de référé, un Temporary Restraining Order, un TRO, un référé, ce qu'on appellerait un référé en France, qui est une décision rapide qu'on demande au juge, justement pour préserver les intérêts et pour restaurer le service désactivé. La raison que met en avant Parler est à mon avis très tirée par les cheveux, mais encore une fois, je ne suis pas juge. Parler considère qu'Amazon aurait partilié avec Twitter et donc supprimerait les données de son réseau pour bénéficier à Twitter. Il ne nous appartient pas, il ne m'appartient pas en tant que personne privée de juger du bien fondé de la démarche de Parler. C'est au juge de le faire, et le juge, justement, le fera en appliquant la loi. C'est bien pour ça que, justement, et pour une fois, j'applaudis Cédric O. Cédric O.
C'est bien la première fois que tu applaudis Cédric O.
Eh bien oui, parce que Cédric O a pris lui aussi son mégaphone en expliquant doctement et fortement ces sociétés sont soumises à la loi. Oui, bien évidemment, c'est le cas. Je pense, pour être très clair, que quand il a émis cette déclaration, dans son esprit, c'était pour dire que les sociétés en question voulaient s'en affranchir. C'est faux. Oui, ces sociétés sont soumises à la loi, et c'est aux législateurs, on en a parlé lors des auditions qui ont eu lieu cet été, ou aux juges, de s'exprimer et de le rappeler. On laissera donc à son auteur l'expression affligeante, j'ai eu d'autres mots hors antenne que je vais garder pour moi, du 11 septembre de l'espace informationnel. Je le répète pour être sûr qu'on soit bien entendu. Le 11 septembre de l'espace informationnel. Ça, ce sont les mots de Thierry Breton, aujourd'hui, donc comme on le rappelait en commençant la chronique, commissaire européen en charge des questions numériques. Confondre le 11 septembre avec ce qu'on fait des plateformes, c'est-à-dire supprimer des comptes parce que un ou plusieurs utilisateurs étaient en rupture avec un contrat, avec leurs conditions générales, je trouve ça profondément choquant. Par ailleurs, s'offusquer quand ces sociétés agissent enfin, alors que depuis des années, les
c'est
mêmes
ça qui est fou, mais...
ont, je cite encore, appelé les entreprises à prendre leurs responsabilités et à agir et à policer leur propre réseau, ça relève, à mon sens, au mieux, et en étant là encore mesuré, de la tartufferie. Surtout, le débat vaut mieux que ça, et ne sera sûrement pas tranché en quelques jours, ni à la faveur de déclarations pour le moins à l'emporte-pièce.
Bon, tu crois que ces conséquences-là, elles vont être durables ?
Alors, oui, mais pas forcément, selon moi, pas forcément sous l'angle que propose justement Breton et consorts. Je ne crois pas à une nationalisation de Twitter et je ne crois pas à un arsenal législatif répressif qui pourrait protéger des justement protéger l'appel à l'enlèvement, l'appel à la sédition et à la coordination de il faut quand même rappeler qu'on a trouvé des bombes la police aux alentours du Capitole a trouvé des bombes on parle pas de voilà des vraies bombes des vrais appareils pour faire sauter des choses je ne pense pas que Angela Merkel avec tout le respect qu'on a pour elle ait à cœur de préserver ou d'agrandir la faculté de parole dont bénéficie là encore le parallèle vaut ce qu'il vaut les néo-nazis qui prennent de plus en plus d'importance dans certains Länder. En revanche justement comme on accuse certaines entreprises d'être des quasi monopoles il sera sans doute de plus en plus dur. En tout cas, c'est sans doute un biais tout trouvé pour les régulateurs qui seraient tentés par le fractionnement ou le démantèlement. Pour parler d'Apple, posons-nous la question concrètement. Apple a-t-elle vraiment besoin ou en tout cas doit-on préserver jusqu'au bout le fait que l'App Store soit la seule porte d'entrée vers les logiciels de l'iPhone? Qu'en est-il du Mac? Alors que sur les Mac M1, on peut installer très facilement des logiciels justement de l'App Store et qu'on ne peut trouver que sur l'App Store, Apple est le seul distributeur d'applications App Store. Est-ce que Apple pourrait être tenté sur les Mac M1 de dire pour protéger les Mac M1 pour mieux encore protéger contre les malware nos utilisateurs, on va proposer, pas demain, pas après-demain, mais dans quelques temps, avec le bien-être de l'utilisateur en ligne de mire de la part d'Apple. C'est toujours, on le sait, hein, Benjamin, le pas l'excuse, mais en tout cas la raison avancée de la part d'Apple. On pourrait imaginer que justement sur l'internet ouvert, on trouve des malwares. Donc proposons aux utilisateurs une manière sécurisée, une manière vérifiée de télécharger des applications. Utilisons l'App Store et positionnons l'App Store comme seule porte d'entrée des applications, y compris sur Mac. On peut penser que le débat de ces derniers jours va au moins ralentir cette évolution si Apple en avait eu l'idée. Parce que justement, il est, à mon avis, Apple a intérêt à dire, comme ils l'ont fait pour d'autres applications, comme ils l'ont fait, par exemple, dans le cas de la Xbox ou d'Amazon, vous pouvez toujours utiliser le web. Ça, c'est un élément que nous ne contrôlons pas, votre liberté là-bas est totale. Apple, à mon avis, aura envie, sinon de le mettre en avant, au moins de pouvoir répondre. Non, on contrôle pas tout. Vous avez bien sûr la possibilité de vous exprimer. On applique nos conditions générales, mais uniquement nos conditions générales. La censure, nous, jamais. Vous pourrez toujours télécharger, en tout cas sur Mac. Donc, allez, pour terminer sur un clin d'œil, pour terminer sur une boutade, et pour peut-être faire un peu baisser la température, on peut se demander si les utilisateurs Mac ne devront pas demain une fière chandelle à Trump. Je pose la question par un clin d'œil, mais on sera sans doute amené à en reparler. À suivre, Benjamin.
Et Jean-Christophe, je te propose qu'on réécoute ce que disait Tim Cook hier sur CBS dans le cadre de l'interview qui était prévue au départ pour accompagner l'annonce qui a mobilisé notre attention ces dernières heures.
I think it's key that people be held accountable for it. This is not something that should skate. This is something that we've got to be very serious about and understand, and
And then we need to move forward.
Do you think the president, President Trump, should be held accountable for it? When you said people should be held accountable, there's a whole discussion about that even as we sit here today.
I think no one is above the law. I mean, that's a great thing about our country. We're a rule of law country. I think everyone that had a part in it needs to be held accountable.
We're all told this as a little kid. There are consequences to your actions. But I don't know how we just let this go.
I would agree. I don't think we should let it go. I think holding people accountable is important.
Ça me paraît très important. On parle beaucoup des plateformes ces temps-ci. C'est bien de laisser les plateformes s'exprimer aussi.
Merci Jean-Christophe. De Washington à Las Vegas virtuellement, on n'en a pas fini du CES 2021. François a suivi les annonces qui concernent la domotique et HomeKit. A tout de suite. Ma maison connectée, notre rendez-vous hebdo avec toi François et avec la domotique Powered by HomeKit. Bah, tu as passé la semaine, comme moi, branché sur le CES 2021 virtuel. T'as réussi à dormir un peu quand même ?
Oui, je t'avoue que je me suis dit, quand on s'est quitté la semaine dernière, je me suis dit, ah bah tiens, CES, la semaine prochaine, j'aurai une rubrique toute faite, c'est bien, il y aura juste à traîner sur les stands. Puis bah, au final, j'ai failli faire chou blanc. Il a fallu gratter un peu, on en parlait avec Ellie en antenne. C'est vrai qu'on est un peu déçus, il n'y a pas grande nouveauté HomeKit. Alors, peut-être que l'arrivée du fameux nouveau protocole aussi retarde les choses, je ne sais pas. Le fameux protocole commun avec les autres constructeurs, c'est une hypothèse. Alors, il y a quand même quelques petites choses. Hein. Déjà, donc, il y a eu des nouveaux téléviseurs Sony OLED et LED, 4K ou 8K, carrément. Hein. Tant qu'on y est, vivement les 16K. Qui ont été présentés, qui seront compatibles à la fois AirPlay, donc comme les téléviseurs que tu as évoqués tout à l'heure, mais en plus seront HomeKit aussi. C'est-à-dire que vous pourrez localiser le téléviseur dans votre maison, il apparaîtra à travers l'application maison, à travers HomeKit en fait.
LG, mais ça... où est ma télé qui pèse 50 kilos?
C'est ça.
Où est mon 72 pouces?
Non mais l'intérêt il est autre les gars.
La piloter à distance, ouais.
Moquez-vous de moi, vous pourrez la localiser dans une pièce et du coup la piloter à distance, compatible avec les raccourcis Siri, etc. Il y aura plein de possibilités. LG, Samsung aussi commencent petit à petit à les rendre compatibles avec des mises à jour. Pour l'instant,
oui,
on n'a pas les
prix. Je confirme, moi je peux l'allumer et l'éteindre. Hein. Oh, moi je le fais, hein. Je l'allume et je l'éteins ma télé. Hein.
Ma télé est trop vieille, sniff. Autre petite nouveauté, les fameuses sonnettes Arlo qu'on connaît déjà, qui sont assez répandues, il y a une mise à jour qui vient de tomber, qui va les rendre compatibles avec HomeKit. Alors je dis bien avec HomeKit, mais pas HomeKit Secure, donc on a eu l'occasion de l'évoquer dans une chronique précédente. Je vous le rappelle, le principe de HomeKit Secure, c'est que les vidéos sont stockées chez Apple, ce qui assure une sécurité, si tant est que les serveurs d'Apple soient sûrs, ce qui est le cas sans doute. Pour l'instant, ce sera que HomeKit, c'est-à-dire que si vous voulez enregistrer les vidéos, il faut passer par un abonnement avec le système Arlo. Et ils ont aussi présenté une sonnette qui va arriver dans quelques temps, qui est COVID-friendly, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la toucher pour que ça sonne, et ça, c'est plutôt intelligent. On a vu, hein, au CES, il y a eu quelques nouveautés quand même liées à la pandémie. Je pense que vous avez dû voir le fameux casque énorme, qui est très hideux d'ailleurs, au demeurant, mais c'est pas grave.
Celui de Razer. Nanoleaf,
le Razer, ouais, c'est ça. Ouais. Et Nanoleaf a annoncé aussi que tous les produits à venir seraient systématiquement tous compatibles avec la technologie Thread qu'on a déjà évoquée, qui permet de faire du maillage. En fait, les produits se relient les uns les autres, et ça montre aussi que cette technologie est en train de prendre de l'importance et qu'on risque de voir de plus en plus de produits arriver compatibles avec cette techno-là.
Donc finalement, il n'y a pas tellement de nouveautés HomeKit à se mettre sous la dent au CES, François?
Oui, du coup, j'ai trouvé deux autres petites infos à vous partager. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu tous la même idée, donc c'est plutôt que ça devait être intéressant. Déjà, une promotion qui montre l'importance qu'est en train de prendre la domotique dans le quotidien des Français. Donc la marque Lidl, à travers sa sous-marque en fait, qui s'appelle Silvercrest, va lancer de la domotique en France. Donc c'est une domotique qui était déjà disponible dans certains pays d'Europe. Pour l'instant, la France n'avait pas été servie. Et donc en fait, vous allez pouvoir aller chez Lidl et vous acheter de la domotique. Alors
Silvercrest, c'est le robot cuisine?
C'est ça, c'est exactement ça, c'est le fameux robot cuisine.
Les gens
cuisine.
Se sont arrachés, c'est ça?
C'est ça, c'est pas la marque des baskets et des tongs, parce que je sais pas si vous avez vu que Lidl a sorti des baskets et des tongs aussi, ils sont très bons en communication. Oui. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de la domotique. Donc, vous avez besoin d'un pont sur le même principe qu'on peut voir pour les Philips Hue. Vous avez toute une gamme de produits, des ampoules, une guirlande LED, des prises connectées. Et un peu plus étonnant, mais pourquoi pas, un radiateur soufflant en céramique. Ça m'a fait marrer quand j'ai vu le communiqué de presse. Pourquoi pas.
C'est Silvercast, hein, la marque, et pas Crass.
Silvercast. Ouais. Tout à fait. J'ai rajouté un R, j'ai eu un doute. J'aime bien rajouter des R partout. Ça peut faire l'office d'un commentaire sur iTunes. Le gros avantage de ces produits, évidemment, c'est le prix. Les ampoules sont à 8 euros, la guirlande LED est à moins de 18 euros, et le pont est vendu une vingtaine d'euros. Donc c'est un matériel qui va être compatible avec Alexa et Google Home.
Mais là, François, on est dans une rubrique domotique pour Apple, et tu nous parles de produits qui ne le sont pas.
Oui, mais en fait, vous allez pouvoir raccorder tous ces produits grâce à une petite technologie qu'on a déjà évoquée, qui s'appelle Homebridge, qui permet en fait de rendre visibles des produits qui ne sont pas compatibles en natif HomeKit, dans HomeKit, dans l'application maison, donc à travers un petit logiciel que vous pouvez installer sur un Raspberry Pi, sur un NAS, etc. On avait évoqué l'idée avec Jean-Christophe de faire une rubrique là-dessus, il va vraiment falloir qu'on le fasse, parce que je sais que Jean-Christophe l'a fait pour son Dyson, moi je l'ai fait aussi pour mon ventilateur Xiaomi. Et puis la dernière petite chose que je voulais évoquer avec vous, c'est une petite trouvaille que j'ai trouvée sur un site très sympa, un site américain que je vous conseille, qui s'appelle HomeKit News and Test, qui est un des sites les plus complets en matière de produits domotiques Apple. C'est des petits boutons que j'ai trouvé trop mignons, qui sont compatibles HomeKit, qui permettent de créer des raccourcis. En fait, c'est juste des petits boutons tout ronds que vous positionnez un peu partout dans votre maison. Ça vous permet de lancer de la musique, de l'allumer les lumières, etc. En fait, vous pouvez déterminer des process, des scénarios en fonction de vos produits. Donc ça s'appelle Flick, tout court, c'est pas le Flick Flack, c'est pas une montre, hein. Je précise, le nom m'a fait marrer, Flick. Ça nécessite un pont, ça vaut assez cher, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je vais essayer de les tester assez rapidement. J'ai envoyé un petit mail à l'entreprise qui vend ces produits pour éventuellement pouvoir les tester et vous en faire une petite rubrique.
Eh ben génial, et tu sais ce qu'on dit, François ? 22, voilà les flics ?
Non, je ne sais pas.
Mais oui !
Tu connais l'expression ?
Bah oui !
Évidemment, ah ouais,
elle
bien
change
sûr.
De sens. Elle change de sens grâce à toi, c'est bien.
Donc il faut que tu achètes 22 interrupteurs.
C'est ça.
C'est ça, tout à fait.
Allez, dans un instant, une technologie dont Steve Jobs ne voulait déjà plus il y a plus de 10 ans et qui vient de se faire la malle officiellement pour de bon cette semaine. Enterrer Flash, c'est bien, mais comment vous en débarrasser vraiment ? C'est le tuto audio. Comment désinstaller Adobe Flash sur votre Mac ? Je vais vous expliquer comment faire, même si l'opération paraît peut-être enfantine pour certains d'entre vous. Alors d'abord Flash, vous vous souvenez de cette époque où la moindre animation graphique sur un site web nécessitait Flash ? Adobe a vécu des années sur cette poule aux œufs d'or, alors avec un player qui était gratuit, mais les logiciels de création, eux, étaient payants. Et puis des technologies beaucoup plus modernes, légères et plus sûres sont arrivées comme le HTML5 WebGL, sans parler de l'installeur Flash, détourné par des pirates qui s'en servaient pour faire entrer des virus dans nos ordis, même si les PC ont été beaucoup plus touchés que les Mac. Alors après des années de résistance, Adobe a donc commencé à enterrer Flash. C'était promis depuis 2017, le support ne devant plus être assuré au-delà de 2020. Eh ben on y est, puisqu'on est en 2021. Alors sur un Mac récent, il y a peu de chances hein, que vous ayez installé Flash, mais sur un Mac un peu plus ancien et pas très à jour, vous avez sans doute une version de Flash qui traîne et qui ne sert vraiment plus à rien, puisque depuis avant-hier, eh bien les lecteurs Flash ont reçu l'ordre de ne plus afficher aucun contenu de la part d'Adobe. Alors Safari, comme les autres navigateurs, ont pris les devants en désactivant ce lecteur Flash depuis le début 2020, mais vous ne pourrez pas considérer que votre Mac est complètement débarrassé de Flash tant que vous n'aurez pas désinstallé ce fameux lecteur. Alors pour cela, eh bien Adobe fournit 3 désinstalleurs différents selon votre version de macOS. Pour les obtenir, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Il faut commencer par aller sur adobe.fr. J'aurais pu vous indiquer le lien pour les télécharger, mais il est tellement imbitable, je vais vous expliquer plutôt comment arriver jusqu'au lien de téléchargement. Alors d'abord, commencez par aller sur adobe.fr, la homepage, et tout en bas de la home, tout en bas, au milieu, vous avez un lien Adobe Flash Player. Vous cliquez dessus et vous tombez sur une page avec une liste de questions-réponses. Cliquez sur la question 5, comment désinstaller Flash Player ? Vous cliquez. Et à l'intérieur, vous avez suivi ces instructions manuelles. Pour Windows, ça ne nous concerne pas. et sur Mac, évidemment, vous cliquez sur Mac. La page suivante vous propose de télécharger et exécuter le programme de désinstallation. Alors d'abord, il y a plusieurs étapes. On va commencer par vérifier la version de macOS que vous utilisez sur votre Mac. Vous connaissez le système, hein, vous allez dans la pomme, dans la barre des menus, puis dans « À propos de ce Mac », le numéro de version de macOS s'affiche. Une fois que vous avez l'info, eh bien vous choisissez la version du désinstalleur qui correspond à votre version de macOS. Si vous êtes sur macOS 10.4 ou plus récent, eh bien vous cliquez sur le premier lien. Apparaissent alors les deux liens de téléchargement correspondant à deux versions de macOS. C'est un peu compliqué. J'avoue que Adobe n'a pas fait les choses de manière très simple. Vous avez donc un lien puis deux liens. Voilà. Le premier lien correspond à macOS 10.4 et 10.5 et le deuxième lien correspond à macOS 10.6. Donc vous devez choisir entre l'un de ces deux liens pour télécharger le bon désinstalleur. Ce désinstalleur se retrouve désormais dans votre dossier de téléchargement Safari. Vous double-cliquez dessus et donc vous lancez le désinstalleur. Après, c'est très simple, il suffit dans le désinstalleur de cliquer sur le bouton désinstaller. Voilà. Prenez garde quand même avant à bien quitter tous vos navigateurs, sinon ça va bloquer. Voilà, ça dure quelques secondes, le processus s'achève et vous avez juste un bouton de confirmation sur lequel il faut cliquer. Ce bouton dit juste « Terminer ». Alors vous allez dire « C'est fini », mais en fait pas tout à fait, parce qu'il y a deux dossiers que vous devez supprimer à la mano. Ils sont dans votre bibliothèque, dans la bibliothèque au niveau de la racine de votre disque dur. Le premier se trouve dans les préférences et s'appelle Macromedia Flash Player. Le second se trouve dans le dossier cache au pluriel et s'appelle Adobe Flash Player. Vous les mettez à la poubelle, vous videz la poubelle et vous pouvez définitivement dire adieu à Flash. Ah, on aura passé de belles années ensemble, toi et moi, Flash.
Et oui.
Bon, les garçons, j'imagine que Flash avait disparu de vos Macs depuis longtemps, non ?
Oh ben oui, et vraiment, c'est depuis longtemps. Regarde ce que tu viens d'expliquer dans les préférences. Macromedia Flash Player. Macromedia, c'était la société qu'avait acheté Adobe, mais genre, je ne sais même pas si François était né cette époque.
Si, si.
Bon, année 2000, hein ?
Ouais. J'ai eu des cours sur Flash.
Mmh. Oui, sur Flash, oui, mais sur Macromedia.
Ah, c'était Macromedia, Flash à l'époque, Dreamweaver, et Macromedia, c'était juste avant que Adobe rachète. Ouais.
D'accord. Mais en tout cas, ça fait un bail. Hein.
T'as plus de Flash, donc plus depuis longtemps, toi, j'imagine.
Ouais, non, et puis, mais j'en ai parlé cet après-midi avec une collègue, parce qu'elle utilisait Prezi, et visiblement, il y a une version de Prezi qui reposait encore sur Flash Player. Et en fait, elle a eu un message d'erreur comme quoi il fallait utiliser une nouvelle version de Prezi qui n'avait pas besoin de Flash Player. Mais du coup, les productions sont en libre accès à tout le monde. Donc, faut que je creuse. J'ai trouvé ça assez étrange, mais c'est Prezi, quoi.
Et ça sert à quoi ?
Ah, tu connais pas Prezi ? C'est un PowerPoint amélioré qui te permet de faire des présentations vraiment... c'est très, très évolué, c'est très sympa. C'était très, très à la mode à une époque.
Ah oui, mais moi je fais du Keynote, moi. On m'a expliqué qu'en dehors de Keynote, point de salut, attends.
Les présentations Prezi sont très, très, très funky et sympas à regarder.
D'accord.
Tu peux faire des moves.
Ouais, tu peux faire des super mouvements dans les animes et tout, c'est pas mal du tout. Alors, si ça s'appuie sur Flash, ils vont devoir s'adapter, parce que là, c'est vraiment fini depuis deux jours. Il n'y a plus rien qui
marche. Il y a une partie, en fait, qui ne l'était plus, et je crois qu'elle devait utiliser une vieille version, mais voilà. Mais visiblement, il y a encore des sites et des systèmes qui utilisaient Flash, ce qui est quand même très triste.
Et bah, depuis le 12 janvier, tout est bloqué, donc il va falloir évoluer. Nos coups de cœur de la semaine, comme tous les jeudis avant 20h dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Allez, on va commencer par toi, Ellie. Tu as craqué. Ah oui, c'est vrai que ce concept LG, on a plaisir à regarder, même si ça ne dure pas très longtemps.
Bah, en fait, en regardant, et en plus j'en ai trouvé un deuxième, je me suis dit que le futur de nos smartphones et de nos tablettes allait être déroulable. Et en fait,
ou enroulable, oui.
Ou enroulable, bien entendu. Parce que LG a profité, vous savez tous que LG a des télévisions qui se déroulent et s'enroulent. On a vu ça depuis 2 ans. Ça coûte vraiment une fortune, mais c'est très spectaculaire à regarder. Ah, ouais. Et là, cette année au CES, la grande surprise, c'est un concept de smartphone où, en fait, l'écran, plutôt que de se plier, vous savez que ça donne des trucs qui sont gros, qui sont inesthétiques, en plus, il y a les problèmes de pliure, etc. On en a déjà parlé et moi, j'étais pas fan du tout de cette technologie. Eh ben, LG nous a surpris en sortant un smartphone où l'écran se déroule et s'enroule et du coup, ça reste très fin et c'est très surprenant. Et on a même vu que TCL, le fabricant de télé dont vous avez parlé, a présenté aussi au CES un concept de tablette cette fois-ci qui se déroule un peu comme un papyrus, donc des deux côtés pour faire... Ça devient carrément un moniteur plutôt qu'une tablette. On peut regarder un film en 16:9 ou voire même dans les nouveaux formats de cinéma, tout simplement en étirant ce papyrus, entre guillemets, ou cette tablette. Et c'est très étonnant. Donc voilà, le futur sera enroulable et déroulable.
François, ton coup de cœur de la semaine, si tu en as un.
Je vais te donner un coup de cœur qui pourra faire l'office d'un test, si tu veux. La MX Master, la dernière de chez Logitech, qui est vraiment super bien, que j'ai depuis quelques temps en test et qui est vraiment, vraiment... Là, c'est la MX3, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai plus son nom en tête, je dois l'avoir en dessous. La MX Master 3 pour Mac, qui est super sympa, que j'ai depuis 2-3 mois. Voilà, j'avais pas de coup de cœur et en fait j'ai regardé ma main droite et je me suis dit que c'était une très très bonne souris. Meilleure que les souris Apple qui sont particulièrement peu ergonomiques pour moi. J'ai beaucoup de mal avec elles. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un test plus détaillé du clavier et de la souris Logitech.
Combien ça vaut ?
Cher. Je crois qu'elle doit valoir 80 ou 90 euros. Maintenant, tu vas me dire, comparé à une Magic Mouse qui vaut, vaut 70-80, c'est pas énorme. Elle est vraiment bien parce qu'il y a plusieurs boutons. Enfin, bref, j'ai le clavier Logitech Craft aussi, celui avec la petite molette. Et honnêtement, c'est du très bon matériel et ça va très bien avec des Macs. Ça ira très bien avec mon futur iMac ARM.
Super, François. Merci beaucoup. Jean-Christophe, tu as un coup de cœur cette semaine. Dis-nous tout.
Alors oui. Je l'ai pas encore utilisé beaucoup, alors c'est un coup de cœur et pas un test, mais j'ai été très intrigué par le portefeuille, le wallet MagSafe d'Apple, et si vous êtes comme moi, vous avez constaté qu'il est introuvable sur l'Apple Store, les délais sont absolument hallucinants. Et évidemment, comme souvent, la concurrence s'est organisée, et donc une société américaine qui s'appelle Moft, MOFT, que je ne connaissais pas, a sorti un produit assez sympa que je vais montrer à la caméra pour nos amis Patreon.
Baisse-le un peu, mets-le devant ton pull, comme ça on le verra bien. Voilà, ça y est, on le voit bien.
Voilà.
Donc ça ressemble à un étui, ça a la taille d'un étui de carte de crédit.
C'est ça. Et c'est...
Décris-le nous pour ceux qui n'ont pas l'image.
Alors, ça s'utilise comme un étui de carte de crédit. Il y a un logement, j'ai pas de carte de crédit sous la main, mais il y a un logement ici. C'est le même principe que le Wallet MagSafe. Il y a un logement dans lequel on peut glisser une carte de crédit. La carte de crédit se tire avec l'ongle. Et évidemment, comme c'est MagSafe, ça tient à l'iPhone. Et donc, on n'emporte que son iPhone avec la carte de crédit qui n'est pas Apple Pay ou par exemple la carte vitale quand on va chez le médecin. Parce qu'on a un médecin moderne qui est compatible Apple Pay. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez pratique, même si c'est plus pratique, moi, quand je suis aux États-Unis, parce que, paradoxalement, Apple Pay est moins adopté aux États-Unis qu'en France, où le paiement sans contact est quasiment la norme. C'est pas le cas aux États-Unis. Quand vous êtes au restaurant, vous devez utiliser une carte de crédit physique, et donc de ce point de vue-là, c'est très pratique. C'est aussi pour ça que depuis des années, je suis le champion des étuis SurfacePad de nos amis de 12,000, justement parce que la carte de crédit physique est toujours utile. Mais bref, donc ça sert à ça, comme le produit d'Apple. Très clairement, c'est pas la même qualité que le produit d'Apple, ça c'est sûr. C'est du cuir, mais le cuir est beaucoup moins beau. C'est plus fonctionnel et ça a le mérite d'exister surtout. Et par ailleurs, il y a une petite astuce moi qui me plaît beaucoup, notamment avec mon 12 Pro Max. Là, je vous le montre à la caméra avec le mini pour que ça se voit mieux, mais...
Donc, donc tu le déplies. Ah.
Donc, on voit à la caméra là, que, ça, se,
tomber, là,
que
voilà.
ça se détache. Voilà.
Si donc, tu tires Max... comme une brute, forcément, l'aimant cède. Voilà.
Exactement. C'est... Il fait son rôle d'aimant. Et on peut, je vous le montre, sans l'iPhone pour que ce soit plus simple.
C'est comme un petit soufflet intérieur, c'est ça ou...
Voilà, c'est comme un soufflet, on tire, et il y a un angle avec un deuxième aimant, et ça forme un genre de triangle qu'on voit à la caméra, et qui agit comme un trépied.
Un support, permet, plutôt. Ouais.
Comme un support, et qui permet d'incliner l'iPhone, qui devient un peu comme une smart cover d'iPad. On retrouve, voilà, l'idée, l'exemple parfait, c'est le smart cover d'iPad. On a le même triangle en bas, la même forme de triangle, qui sert de support et qui permet d'incliner l'iPhone comme on inclinerait un iPad et qui permet donc de faire une vidéo, de faire un FaceTime sans tenir l'iPhone ou évidemment de regarder une vidéo sans tenir l'iPhone aussi. C'est l'angle parfait pour regarder une vidéo. Donc ça casse pas trois patins à canard, mais ça fonctionne très bien. Surtout, c'est disponible. Moi, je l'ai reçu en une semaine, contrairement aux produits Apple qu'on a encore du mal à trouver.
Tu l'as acheté où et tu l'as payé combien?
Je l'ai commandé en ligne aux États-Unis. Les frais de port sont un peu... Le produit à la base est moins cher que le wallet d'Apple puisqu'il ne coûte que $35, toutes taxes comprises. En revanche, malheureusement, les frais de port sont un peu élevés, surtout quand on voit le produit qui tient dans une enveloppe toute bête. Le marchand impose $18 de frais de port, ce que je trouve un peu scandaleux. On n'est pas loin du ouais, c'est quasiment la moitié du prix. C'est la moitié du prix du produit en lui-même. C'est un peu dommage. Je le regrette. J'aurais aimé pouvoir être aux États-Unis et commander mon support beaucoup plus facilement. C'est dommage. Mais c'est un produit sympa et innovant. Et après tout, voilà. Il est disponible. Il en fait plus. Il fait la même chose que le produit d'Apple. Et le côté support est très sympa. C'est pour ça que c'est un coup de cœur.
Eh bien, merci Jean-Christophe. Rappelle-nous son nom quand même à ce petit gadget, ce petit accessoire.
Ouh, alors il a un nom, c'est le Snap-on Phone Stand and Wallet de chez Moft.
Moft.
M-O-F-T. Et qu'on trouve, bien sûr, sur moft.us, puisque c'est une entreprise américaine.
Et cet accessoire, Jean-Christophe, cet accessoire MagSafe a déjà tapé dans l'œil de plusieurs fidèles d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Je pense notamment à Serge Lotz et à Julien Serre qui ont tweeté sur le sujet mercredi midi. Salut à vous deux, profitez bien de votre nouveau support pour iPhone 12 et merci Jean-Christophe, merci à tous les amis. L'épisode 21 se referme sur la promesse de nous retrouver le 21 janvier 2020 avant 20h pour l'épisode 22. J'espère que vous suivez. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Pour réagir à cet épisode, pour échanger avec nous tout au long de la semaine, vous avez Twitter avec le hashtag iWeekLSA. Nous soutenir via Patreon, patreon.com/iWeek à partir d'1,50€ par épisode avec des avantages exclusifs comme tous les épisodes sans pub, en version vidéo pour certains, des sondages exclusifs, l'accès à mon script de travail chaque semaine et bien plus encore. Abonnez-vous aussi sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit. Et sur Apple Podcast, votre plus beau cadeau, ce sera une note 5 étoiles et un avis bienveillant et sympa à hauteur de la passion, du temps et de l'enthousiasme que nous mettons dans la production de ce rendez-vous hebdo avec vous. Salut les amis, salut Jean-Christophe.
Salut Benjamin, à bientôt les amis. C'était super d'être ensemble pour une semaine importante.
Oui, on pensait que ce serait une semaine calme, mais en fait pas du tout.
C'est ça. À la semaine prochaine, peut-être que celle-là sera plus calme.
ça nous arrangera pas. J'aime bien les semaines agitées, moi.
On est tous comme toi, Benjamin. C'est pour ça que iWeek LSA, on y prend toujours autant de plaisir. C'est parce que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas.
Salut François.
Salut Benjamin. Salut à tous et à la semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Et salut Ellie.
Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde, et puis je vous rappelle que comme la semaine prochaine c'est l'épisode 22, je vous propose que nous venions tous habillés en flic.
Ou avec une flic ou un flic.
Ou un flic.
Le bouton, hein, pas le policier. Bonne soirée à tous, bonne fin de semaine, bon week-end. Parlez d'iWeek autour de vous, à vos amis, à vos collègues, tweetez et retweetez-nous. Et à jeudi prochain, avant 20h, sans faute, salut à tous.